C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Landy. Auteur Marcel Proust, écrivain 1871-1922. Œuvre à la recherche du temps perdu, roman 1913-1927. Personnage Albertine Simonet. Adaptation en bande dessinée, plusieurs à la télévision, au théâtre et au cinéma, avec notamment Le temps retrouvé de Raoul Ruiz, où Chiara Mastroianni interprète le rôle d'Albertine. À la recherche du temps perdu fait souvent penser aux mille et une nuits. Et peut-être ne le fait-il jamais plus que dans les passages relatifs à la liaison du narrateur et d'Albertine. Il tient la jeune fille captive, captive volontaire nous dit-on, mais suffisamment sous emprise pour que sa volonté soit amoindrie. Et dans son appartement devenu un harem d'une seule personne, il la possède. La possède vraiment et dans toutes les acceptions du mot. Il l'achète en lui donnant de l'argent, il lui fait l'amour. Il abuse sa confiance. Il la possède, il ne la possède pas. Albertine est fuyante, fausse, incomplètement à lui, peut-être même absolument pas à lui si l'on accepte la chair. Je voudrais tout de suite faire un sort à une des interprétations les plus révoltantes pour la fiction que je connaisse, et les dieux de la banalité savent, si nous l'avons entendu, qu'Albertine serait un Albert mis au féminin. Tout s'oppose à cette interprétation, à commencer ceci, l'auteur dit qu'Albertine est Albertine. Affirmer « Albertine est Albert », c'est comme si, devant la tour Eiffel, on disait « c'est l'Arc de Triomphe ». Non seulement Albertine est une fille, et si on conteste cela, il ne reste qu'à prétendre que, quand le narrateur parle d'Aubépine, il s'agit, en réalité, d'Ortie, mais cette histoire serait impossible avec un homme. Et d'abord, toutes ces cajoleries, toutes ces chatteries, tout ce temps perdu pour arriver au lit. Entre hommes, ça va plus vite. Albertine est Albertine, voilà, je crois, la très simple et très scandaleuse proposition d'À la recherche du temps perdu. Qui est Albertine? Pour en parler, je reçois Mathilde Mrezet, auteure d'un dictionnaire des personnages de Proust, Le grand monde de Proust, chez Grasset. Mathilde Mrezet, dites-moi, puisque c'est la troisième fois que vous venez parler avec moi d'un personnage de Proust, et vous savez quelle est la question, c'est à quoi ressemble Albertine, physiquement?
Alors, j'aimerais bien vous dire que, comme certaines héroïnes de Balzac ou d'autres romans de moindre facture, Albertine a la taille fine et les yeux noirs, et que quand on la voit, on en tombe immédiatement amoureux. Mais la réalité du texte est autre. Et Albertine, c'est d'abord une cycliste, brune, à polo noir. Au-dessus de ce polo, on distingue des yeux bleus. C'est une sportive. Le narrateur fera état de ses mollets, notamment quand elle est installée au pianola, un piano devant lequel il faut pédaler pour faire jouer de la musique. Donc c'est une femme qui a une certaine constitution énergique, sportive, et qui a un autre trait particulier qui sont ses joues. De très grosses joues, des joues rondes, des joues rouges. Alors je ne vais pas faire la liste des adjectifs que Proust associe merveilleusement à ses joues, mais en tout cas, c'est dans ce visage les joues de la jeune fille qui intéresse le narrateur. Les joues et son grain de beauté, qui est mouvant, qui bouge de la joue au menton, du menton à l'œil, de l'œil à la lèvre. Et évidemment, ce grain de beauté est une métaphore et le signe sensible des changements de personnalité de la jeune fille.
Elle a aussi un petit nez rose de chatte.
Oui.
Et alors, une chose intéressante, c'est que la seule description d'un corps nu de tout le roman, c'est Albertine. Si vous voulez, je vais vous dire les quelques phrases. Les deux petits seins hauts remontés étaient si ronds qu'ils avaient moins l'air de faire partie intégrante de son corps que d'y avoir mûri comme des fruits. Et il continue quelques phrases comme ça. C'est intéressant parce qu'il y a très très peu d'unité. C'est même la seule dans Proust et c'est pour Albertine.
Oui, et c'est intéressant parce que si on suit le texte, si on continue le paragraphe...
C'est dans La prisonnière.
Que vous venez de lire, au moment de l'évocation de son sexe, tout à coup, Proust mentionne un sexe d'homme pour dire qu'il n'y a pas un sexe d'homme à cet endroit-là. Mais c'est tout de même une curiosité.
Il dit même une chose très stupéfiante, c'est que la parenthèse que vous évoquez, Mathilde Mrezet, est « dissimulant la place qui chez l'homme sans lady comme du crampon resté fiché dans une statue décellée ». Albertine est, et c'est très important, une jeune fille. Une jeune fille, j'y ai consacré tout un personnage en personne, était une notion très forte à l'époque où Proust a écrit. Et je me suis rendu compte d'ailleurs en faisant cette émission que c'est une notion à peu près perdue. Maintenant, les gens ne savent plus très bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous voulez me dire ce que ça voulait dire dans le vocabulaire bourgeois, puisqu'en somme c'était une appellation bourgeoise, qu'une jeune fille?
une jeune fille, ça n'est pas une femme, c'est une jeune fille qui a gardé son innocence, censément, bien qu'on voit que ce ne soit pas le cas d'Albertine. Et là-dedans, il y a aussi une grande modernité du roman de Proust qui nous échappe complètement, mais cette cohabitation qui nous paraît absolument naturelle aujourd'hui entre la jeune fille et son amant, cohabitation qui a lieu dans la prisonnière, devrait être totalement impensable, scandaleuse, dans le cadre bourgeois du roman. Et donc une jeune fille n'a pas connu d'homme, a des amitiés féminines, peut avoir des amitiés masculines aussi. Elle est destinée à se marier, et c'est d'ailleurs la grande obsession, non pas des parents d'Albertine, car Albertine est orpheline, mais la grande obsession de sa tante, Madame Bontemps. Madame Bontemps a hérité d'Albertine Bontemps, et elle voudrait la marier, et la marier correctement, c'est-à-dire avec quelqu'un qui soit suffisamment riche et ou suffisamment reçu, parce que Madame Bontemps a des prétentions mondaines, quoiqu'elle vienne d'un monde absolument différent du grand monde de Proust, c'est-à-dire du monde de la duchesse de Guermantes.
Vous avez raison, c'est une chose très très frappante dans Proust, c'est une espèce de révolutionnaire des mœurs, parce qu'il dit les choses comme elles se passent, et ces jeunes filles chez lui ne sont pas exactement des jeunes filles, puisqu'elles sont en fleurs. Et c'est toute une bande, n'est-ce pas, les jeunes filles? Qui sont-elles?
Oui, elles sont plusieurs. Alors, il y a beaucoup de noms, il y a André, Gisèle. Gisèle, par exemple, c'est la jeune fille rousse. C'est une fille de feu, une fille qui ne déparerait pas dans un Nerval, qui a été aussi une des sources d'inspiration de Proust. Et Gisèle, pendant un temps, elle concurrence Albertine dans le cœur du narrateur. Avant de se fixer sur cette brune sportive, la rousse éthérée l'intéresse. Et puis il y a André, qui est un personnage capital, qui entretient un rapport passionnant avec le personnage d'Albertine et avec le destin d'Albertine, si je puis dire, puisque à la fin du roman, le destin d'Albertine, c'est André qui nous le livre.
Alors, il faut spécifier que le narrateur voulait Gilberte, la fille donc d'Odette et de Swann, il ne l'a pas eue et à la place, il a Albertine presque par hasard.
Oui, dès le début de cette histoire d'amour, on a la conclusion de l'histoire d'amour de Swann et Odette, c'est-à-dire cette idée que la femme dont on tombe amoureux n'est pas du genre de l'amoureux. Je disais tout à l'heure que le narrateur tombe d'abord amoureux de Gisèle et qu'elle est rousse. C'est bien sûr parce qu'elle est l'héritière dans son cœur de Gilberte, rousse elle aussi. Mais cette rousse ne se donnant pas, ne l'intéressant pas, finalement c'est la brune Albertine qui l'intéresse pour une raison très simple et que je trouve très amusante, très propre au roman proustien. C'est une raison très crue. Albertine l'intéresse parce qu'il se dit qu'elle a du vice. Et l'amour dans Proust, c'est d'abord l'idée de la possession qui le suscite. Ou c'est parfois l'idée de cette possession possible qui va le susciter.
Alors, pour en revenir un bref instant aux jeunes filles et André, dont vous avez relevé l'importance, il faut dire qu'on voit Albertine et André danser ensemble au casino de Balbec. Et c'est bien plus tard qu'on apprendra quelque chose.
Oui, c'est plus tard qu'on apprend qu'il se passe quelque chose entre elles. Mais le mot est lâché dès cet instant, c'est-à-dire que c'est dans l'étape de ce roman amoureux qui se noue entre le narrateur et Albertine. Le roman commence par un échec, puisque Albertine se refuse au narrateur. Il croit qu'elle a du vice, en fait, elle n'en a pas, elle refuse de l'embrasser. On est à Balbec. Et puis finalement, à Paris, elle se donne tout entière. Et il n'a presque rien besoin de demander. Et quand nous sommes de retour à Balbec, un jour, le docteur Cottard va regarder danser André et Albertine et faire une remarque totalement sidérante qui consiste à dire que on ne le sait pas assez, mais c'est d'abord par les seins que les femmes éprouvent du plaisir. Or, il les voit et il fait remarquer au narrateur qu'elles dansent seins contre seins. Et dans ses carnets, Proust appelle ça la danse contre seins. Et on voit que c'est un moment capital dans l'idée de cet amour qu'il écrit, puisque ça va opérer un retournement dans l'attitude du narrateur. Ça n'est plus simplement le plaisir qu'il cherche. Tout à coup, il est entré dans la jalousie.
Alors, on en parlera tout à l'heure de la jalousie, qui est un point effectivement très important de l'histoire. Pour l'instant, au début, quand il est avec Albertine à Paris, il se voit un peu comme une sorte de Pygmalion. Par exemple, il veut qu'elle s'habille bien et donc il demande des conseils à la duchesse de Guermantes pour des robes, chose qui me paraît un peu curieuse d'ailleurs, mais enfin, il le fait. Dites-moi pourquoi, d'après vous, Albertine accepte sa condition d'enfermée volontaire chez le narrateur.
Mais je ne saurais pas vous répondre. C'est un des points qui m'étonne absolument dans ce roman. C'est un des passages que je trouve aussi les plus, révoltants de l'histoire qui nous est contée, parce qu'en fait, cette prisonnière qui est à domicile, qui est gardée, qui ne peut pas sortir, qui est soumise à des interrogatoires et qui doit totalement se transformer pour celui qu'elle aime, c'est une histoire étonnante, D'autant que cet amoureux n'est pas très agréable avec elle. En tout cas, pour nous, il nous fait constamment la remarque de sa bêtise, de sa vulgarité.
Qu'est-ce qui vous révolte ? C'est que vous pensez que ça ne peut pas exister ou c'est simplement leur relation que
leur
vous trouvez
relation, révoltante ? Non, d'un point de vue très naïf, je trouve ça épouvantable ce qu'elle subit.
Il faut dire que c'est un pacte. Elle a approuvé les conditions d'un pacte. Donc elle n'est pas, évidemment, il y a des questions d'emprise, etc. Mais malgré tout, elle n'est pas enfermée de force non plus.
Non, oui, c'est une enfermée volontaire. Effectivement, le mot emprise, je pense que c'est la clé de cette histoire, puisque le narrateur exerce un ascendant moral, intellectuel, très fort sur cette jeune fille, qui vient d'un milieu, le narrateur le précise, ni médiocre, ni très intéressant, une bourgeoise de la bourgeoisie financière, plutôt royaliste, en tout cas plutôt catholique, mais on sent qu'elle aspire à autre chose. Et peut-être ce que lui offre ce bourgeois très cultivé l'intéresse.
Est-ce qu'elle est cupide ? Parce que plus tard dans le roman, le narrateur laisse passer qu'il lui a donné 30 000 francs, ce qui n'était pas rien à l'époque.
En tout cas, le narrateur dépense énormément d'argent pour elle. Comme Marcel Proust avait l'habitude de dépenser énormément d'argent pour les amis qui l'hébergeaient chez lui. Mais pourtant, la cupidité n'est pas le fond de sa nature, puisque devant son désir de partir, l'argent ne la retiendra pas, ne la fera pas revenir.
Parmi les nombreux petits défauts que le narrateur nous révèle d'Albertine, elle a des préjugés presque petits bourgeois. Ainsi, elle qui se nomme Simonet avec un seul N, trouve que les Simonet avec deux N sont très inférieurs.
Oui, elle est aussi antisémite. Elle fait volontiers quelques remarques antisémites que Proust interprète comme l'héritage de son milieu.
Alors ça, c'est pour moi au bord de l'inadvertance de Proust, parce qu'un des exemples qu'il donne, c'est la façon qu'elle a de dire « israélite ». Or, c'est la façon propre. Donc ça me paraît là ou une erreur de Proust en tant qu'auteur ou une surinterprétation du narrateur qui d'autre part est assez léger quand il s'agit de l'antisémitisme des autres.
Bien sûr.
Est-ce qu'elle est si sotte que ça ? Il y a une phrase dans La prisonnière où je me demande si elle ne se moque pas de lui. C'est celle-ci, elle dit au narrateur que vous êtes gentil. Si je deviens jamais intelligente, ce sera grâce à vous. Est-ce qu'elle se fiche pas de lui ?
C'est possible et j'allais dire presque c'est souhaitable. Mais au fond, elle est pas sotte. C'est moins sa sottise que le narrateur pointe du doigt que sa vulgarité, ou plutôt sa perméabilité à la vulgarité du monde. C'est-à-dire que le narrateur, qui est évidemment, comme Proust, un hypersensible du langage, passe son temps à pister dans sa conversation ses mots, ses expressions qui lui viennent d'ailleurs et donc qu'elle répète sans réfléchir, sans les posséder, ce qui est la marque, effectivement, d'une certaine bêtise dans son être au monde. Par exemple, il remarque la manière qu'elle a d'utiliser l'expression « vivre sa vie », qu'on emploie tout le temps aujourd'hui, mais qui, en 1920, choque absolument Proust, puisqu'il y voit un pléonasme ridicule qu'elle devrait expurger de sa conversation.
Et c'est d'ailleurs un des petits tics du narrateur, ça. Il a très fortement la prétention de mieux parler le français que tout le monde.
Bien sûr.
Ce qui l'empêche pas de faire des fautes, d'ailleurs.
À force de pister sa conversation, l'arrivée de nouveaux mots dans son vocabulaire vont constituer presque une péripétie complète dans leur histoire d'amour, puisque je disais tout à l'heure qu'à Balbec, Albertine se refuse au narrateur. Et quand elle revient à Paris, il ne retente quelque chose que parce que subitement, il a entendu, comme il le dit, des nouveaux mots dans sa conversation. Il dit maintenant, j'ai remarqué qu'elle employait le mot « mousmer » et l'expression « à mon sens ». Et il y voit la marque d'un étranger qui, en plus de l'avoir initié à ces expressions, aurait pu l'avoir initié à autre chose.
Et c'est aussi très le narrateur. Ça, pour lui, les mots sont des clés. Tout mot est porteur d'un signe. Alors, il y a une chose, c'est qu'une fois Albertine cloîtrée chez lui, le narrateur a la manie de vouloir la réformer pour l'éloigner de son lesbianisme et finalement l'épouser. Alors c'est pour moi un des traits d'ailleurs qui montre que vraiment le narrateur est hétérosexuel, parce que c'est un trait vraiment d'hétérosexuel qui d'une part sont souvent excités par les lesbiennes et d'autre part qui pense qu'une lesbienne est une femme à qui on a mal fait l'amour et donc qui va lui montrer comment le vrai sexe se passe.
Bien sûr, dans toute la recherche du temps perdu, ce fantasme du lesbianisme est très intéressant parce que c'est un fantasme extrêmement hétérosexuel, extrêmement masculin et qui est presque offert en tant que tel et mis en tant que tel sous les yeux du lecteur. Et quand on voit certaines lettres qu'enverra plus tard les enquêteurs du narrateur au narrateur pour lui raconter ce que faisait Albertine, on a des scènes qu'on croirait tout droit sorties d'un script de scénario pornographique.
Et puis un jour, la servante du narrateur vient lui dire une phrase.
Mademoiselle Albertine est partie. Coup de tonnerre. Effectivement, on ne s'y attendait plus. À partir de ce moment-là, la prisonnière, Albertine, s'est échappée. Le suite du récit n'est plus le récit de leur relation, mais le récit d'un homme qui s'est jeté à la poursuite d'une femme, qui s'est jeté à la poursuite de son amour qui lui échappe. Et c'est très intéressant cette fuite, puisque quand on s'intéresse à la vie de Marcel Proust, on voit que est rejoué là-dedans et passe dans le roman des événements qu'il a lui-même vécu. C'est-à-dire que Albertine n'est pas Albert, c'est une certitude, mais Albertine, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un personnage passionnant, est arrivée dans ce roman parce que Proust avait vécu un terrible chagrin d'amour avec Alfred Agostinelli. Ce personnage, d'ailleurs, d'Albertine, n'était absolument pas prévu dans son livre. Jusqu'à extrêmement tard, les amoureuses du narrateur, il y en a quelques-unes, elles n'ont absolument aucune importance, elles se succèdent, et cette plongée terrible dans cette relation à deux, cet enfermement qu'on vient de raconter, n'a pas lieu d'être. Et puis le départ d'Alfred Agostinelli, puisque c'est Alfred Agostinelli que Marcel Proust a hébergé chez lui très brièvement, une année, en tant que secrétaire, ce départ totalement inattendu, au mois de décembre, est rejoué et repassé dans le roman à travers le départ d'Albertine.
D'ailleurs, il y a un petit fait dans l'affaire Agostinelli, c'est que Proust, il y a l'histoire de l'avion d'Agostinelli sur lequel Proust voulait écrire un vers de Mallarmé, ce qui est une idée très littéraire, évidemment. Et l'argument revient non pas avec un avion pour Albertine.
Mais avec un yacht. A proposé à Agostinelli, pour le faire revenir, un avion et une Rolls-Royce. Et le narrateur propose à Albertine, pour la faire revenir, un yacht, puisque Albertine et la mère ont vraiment parti lié. Un yacht et une Rolls-Royce. Et puis, de la même manière que Marcel Proust a écrit à Agostinelli pour lui dire « En fait, n'acceptez pas ce cadeau, s'il vous plaît », le narrateur va envoyer une lettre à Albertine pour lui demander de décommander ses cadeaux.
Et comme souvent, dans la carabine à deux coups, qui est parfois à la recherche du temps perdu, séparé d'Albertine, le narrateur en vient à souhaiter qu'il lui arrive un accident pour que sa propre souffrance soit abolie. Et quelques temps plus tard, on apprend que Albertine a été jetée contre un arbre par son cheval et est morte.
Oui, et le narrateur, à cette occasion, exprime un sentiment de culpabilité puisqu'il dit « Elle a été tuée par un cheval qu'elle n'aurait pas possédé si moi je ne la lui avais pas offert ». Et ça aussi, c'est très intéressant parce que Marcel Proust, très longtemps, s'est senti coupable de la mort d'Alfred Agostinelli puisque c'est lui qui l'avait financé et qui lui avait donné l'argent nécessaire pour prendre ses cours d'aviation.
Nous allons maintenant entendre l'extrait d'une comédie musicale donnée Off-Broadway en 2003, My Life with Albertine. Elle est de Ricky Ian Gordon et Richard Nelson et c'est Kelly O'Hara qui chante la partition d'Albertine sous la direction de Charles Princes.
Now he comes to my door and he knocks there three times. And this is what I hear him whine. I need me a girl, oh give me a girl. I need me a girl in the most awful way. Oh give me a girl over a man any day. Please pick me a girl or I'll take one.
I need me a girl, oh give me a girl.
I need me a girl.
Mathilde Brézé, dans ce personnage en personne où j'étudie avec vous le personnage d'Albertine dans la recherche du temps perdu, je voudrais que nous parlions d'une sensation que Marcel Proust a explorée comme peu d'écrivains dans les pages relatives à Albertine, qui est la jalousie. Albertine est captive, mais elle n'est pas la seule. Le narrateur, méfiant, souffrant, et d'ailleurs comme il souffre et comme il nous le dit, est lui-même grignoté par la jalousie.
Oui, depuis cette fameuse remarque du docteur Cottard, qui insinue que Albertine et André ont des relations qui les placent du côté de Gomorre, le narrateur est dévoré par la jalousie. En réalité, il me semble que la jalousie commence même dès avant, puisque un jour, il part en visite à Doncières voir Saint-Loup, et il trouve qu'Albertine fait des agaceries à Saint-Loup, et ça l'énerve beaucoup. Mais enfin, la jalousie dessine un cercle et un étau terrible autour de ces deux-là, et surtout autour d'Albertine, puisque, comme Swann avant lui, le narrateur, pour assouvir sa jalousie, pour la calmer, va soumettre la jeune fille à des interrogatoires terribles et infinis.
Ce qui provoque sa jalousie préalable probablement, c'est les jeunes filles et le phénomène de bande des jeunes filles. Il y a là un mystère entre elles qui ne pénètre pas très bien et qui le rend excessivement méfiant et qui décuple sa jalousie, non ?
Oui, leur effet en bande, leur effet, j'allais dire, érotique qu'elles produisent sur lui, cette bande de jeunes filles, et le mystère qu'elles constituent, le mettent en alerte dès le premier tome d'Alombe des jeunes filles en fleurs.
Qui plus est, elles sont souvent, disons, taquines, c'est-à-dire méchantes. Il y a une scène, quand il les croise sur la plage à Balbec, ou je ne sais plus laquelle, saute par-dessus quelqu'un qui...
André. Cette première scène, c'est l'apparition des jeunes filles, elles sont sur la digue de Balbec. André court et elle saute par-dessus un vieux monsieur qui a installé son pliant sur la digue pour profiter de la vue. Et c'est terrible parce que tout le sens des jeunes filles est là, elles sont là pour prendre ce qu'elles veulent dans la vie. Et cette idée d'une volonté autonome, cette idée de cette manière qu'elles ont de se servir, angoisse terriblement le narrateur. Et c'est ce qu'il va reprocher de manière récurrente à Albertine. Son obsession, c'est qu'elle aille prendre son plaisir ailleurs, et notamment avec des femmes. Alors il y a un certain nombre de femmes qui cristallisent cette jalousie. Il y a l'actrice Léa, qu'on voit peu, mais qui est une actrice de théâtre, qui occasionne une scène complètement folle, où un jour le narrateur apprend que Albertine va aller la voir au théâtre, et il devient fou, comme s'il pouvait se produire quoi que ce soit entre Léa qui est sur la scène et Albertine qui est dans le public. Mais au-delà de cette actrice Léa, on a aussi évidemment Mademoiselle Vinteuil, la première gomorréenne du roman, qu'on a rencontrée avec son amie, qui n'a pas de nom, qu'on appellera l'amie de Mademoiselle Vinteuil, au début de Combray. Et ce qui va mettre en alerte la jalousie du narrateur, c'est quand il apprend que cette amie de Mademoiselle Vinteuil a été comme une mère pour Albertine et qu'elles ont fait des voyages ensemble en Hollande.
La jalousie s'accompagne évidemment d'espionnage. Dans Albertine disparue, on voit le narrateur espionner devant chez Albertine. Et c'est d'ailleurs assez fréquent chez les jaloux, puisqu'on a vu Swann lui-même aller espionner devant chez Odette. Et le narrateur est d'ailleurs un espion lui-même, c'est le James Bond de son monde. On le voit sans arrêt espionner.
Oui, mais sans grande prise. J'allais dire, c'est un espion un peu raté. C'est-à-dire qu'il passe son temps à guetter, à fureter et à interroger à droite à gauche. Et pourtant, il ne découvre les choses que 600 pages ou 700 pages plus tard. Donc son efficacité en tant qu'enquêteur est assez douteuse.
Ça, c'est un truc de Proust pour nous faire croire à la candeur du narrateur. Évidemment, il est obligé de retarder là.
Oui.
La jalousie du narrateur n'est-elle pas due aussi au départ à son manque d'égalitarisme? Je veux dire, dans ses rapports avec Albertine, il est dès le départ dans quelque chose qui est peut-être pas de la supériorité, mais déjà de la méfiance.
Oh oui, moi je pense que même le mot supériorité, on peut le lâcher immédiatement. C'est-à-dire que Albertine est plus souvent un objet qu'un sujet dans ce roman. Et alors c'est un objet qu'on peut améliorer, qu'on peut polir, qu'on peut orner, mais elle n'est jamais présentée comme une égale, sauf à de rares instants où elle, un moment de grâce, le narrateur l'apprécie pour ce qu'elle est. Mais c'est vraiment un objet qu'il manipule et qu'il intrigue, une boîte noire qu'il secoue en se demandant ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors on sait que Proust a lu un peu Freud. Le mot inconscient, dans le sens tout à fait psychanalytique, se trouve dans À la recherche du temps perdu. Est-ce que vous diriez que, si on suit les catégories de l'analyse, Albertine est une passive agressive?
Il y a peu d'agressivité de sa part, mais effectivement, on peut considérer que sa fuite, ses silences, ses mystères qui rendent complètement fou le narrateur, cette manière qu'elle a de ne lui avouer les choses qu'à demi, à moitié ou en deux temps, systématiquement, c'est-à-dire je ne connais pas Léa, puis j'ai vu une fois Léa, puis j'ai passé une semaine avec Léa à tel endroit, sont une manière de le rendre complètement fou,
oui, c'est de la
avec succès, et de le torturer. C'est vrai que j'ai beaucoup plaint Albertine depuis le début de cette émission, mais le narrateur est au moins aussi souffrant qu'elle.
En fait, le problème, c'est l'intention. On connaît l'intention du narrateur. En gros, il veut coucher avec elle. Et puis, par cette espèce de pygmalionisme, assouvir sa supériorité. Donc, on peut l'approuver, le désapprouver, mais c'est clair. Mais les intentions d'Albertine ne sont jamais claires.
Non.
On ne sait pas ce qu'elle veut.
Albertine, c'est ce qu'il y a de formidable dans ce personnage, c'est qu'elle suit son plaisir. Et de la même manière qu'à Balbec, une soirée lui fait plaisir, voir un ami lui fait plaisir. Et elle y va en mentant pour cela au narrateur. Mais ça continue dans tout le roman. Mais le plaisir, quel sera son prochain plaisir, c'est tout à fait impossible à dire. Donc on ne lit pas du tout Claire dans son jeu et dans ses désirs.
En réalité, je me suis en train de me demander en vous parlant, c'est une chose que je ne me suis jamais dite, Mathilde Brézé, mais que peut-être Albertine n'est pas très intéressée par le sexe. Il y a un passage, quand elle est chez le narrateur à Paris, où elle est vous parliez de plaisir et c'est ça qui m'y fait penser, où elle exulte parce qu'elle entend les cris des marchands dans la rue et c'est sa gourmandise qui l'excite. Et en réalité, tous ces plaisirs ont l'air des plaisirs au fond, en dehors du sexe.
Oui, ou alors ils sont tous au même niveau. C'est un être de sensation qui ne hiérarchise pas tellement entre ses plaisirs et ses joies, entre son corps et son esprit. Et évidemment, ça rend complètement fou le narrateur qui, lui, hiérarchise toutes ces choses, pour qui la possession du corps est à la fois essentielle et en même temps n'est rien. Et c'est pour ça qu'il a une obsession qui est particulièrement déplaisante, je trouve, qui est de posséder Albertine dans son sommeil. Ce qu'il aime, c'est Albertine endormie, parce qu'endormie, son esprit n'est pas là. Et il a, à lui, dans ses mains, dans ses bras, son corps.
D'ailleurs, après la mort d'Albertine, il y a une scène très étrange. Il a une femme dans ses bras, je ne sais plus laquelle au moment où je vous parle. Il lui parle de la mort d'Albertine et pendant qu'il lui parle de la mort d'Albertine, il la pelote.
Je me demande si ce n'est pas une petite fille même. Il récupère effectivement une petite fille sur le pas de sa porte.
Il la prend sur ses genoux.
Il ne se passe pas tellement plus que ça, et en même temps, ça peut déjà être assez gênant. Et puis, la suite de cette histoire, c'est qu'il sera convoqué par un commissaire de police. Ouais.
La jalousie se développe sur l'équivoque, et le narrateur sait que dès le départ, il y a quelque chose de faussé dans cette relation. Et au fond, c'est ça, je pense, qui enclenche cette jalousie, l'équivoque.
Oui, il ne sait pas ce qu'elle veut, et il le saura d'autant moins que Albertine va mourir et disparaître. Et là, il y a un trait fascinant qui est propre au roman proustien, qui est qu'évidemment la disparition d'un personnage dans l'ordre de la vie n'amène pas du tout la disparition du personnage dans l'ordre de l'esprit. Et la plus grande partie d'Albertine disparue, c'est une enquête du narrateur tout seul avec ses deux sbires, Robert de Saint-Loup, qui l'envoie sur les traces d'Albertine chez sa tante en Touraine, puis Aimé, le maître d'hôtel de Balbec, qui en tant que domestique a des acquaintances dans des milieux un peu plus louches, qui vont lui faire un récit circonstancié par lettres et par télégrammes alternés, des éléments, toujours équivoques évidemment, qu'ils ont pu apprendre sur Albertine. Et là, il y a un roman complètement fou et d'une modernité incroyable en fait, parce qu'on est, évidemment, si on n'y a jamais été, plus du tout chez Balzac, mais ce roman par enquête, où les points de vue alternent, on est dans quelque chose d'extrêmement moderne, qui peut faire penser à Philippe Roth, à Emmanuel Carrère, à énormément de romanciers bien plus tardifs. Et cette Albertine disparue, où on ne sait jamais le vrai du faux, où le vrai du faux ne sera pas tranché, on ne saura pas si Albertine était ou non lesbienne, puisqu'on aura toujours et présenté sur le même plan les deux possibilités. Aimer apportera des témoignages d'une blanchisseuse, d'une doucheuse, et même fera le récit circonstancié de leurs ébats avec Albertine. Mais André dira successivement qu'Albertine l'était et ne l'était pas. Et ce mystère non tranché est un des grands plaisirs d'Albertine disparue.
Bah, c'est aussi une des grandes leçons d'À la recherche du temps perdu, c'est que les êtres ne sont pas uniques et que, au fond, comme les personnes, les personnages changent en fonction des autres personnages ou personnes avec qui ils se trouvent.
Oui.
C'est une idée, au fond, très sommaire de penser que les êtres sont uniques. Et donc, Albertine est comme n'importe qui, variée.
Oui, mais pour beaucoup de personnages, Proust va nous donner la somme de leur variété ou de leur variation. C'est-à-dire qu'on saura qu'en tel état, ils seront telle personne. Pour Albertine, le mystère est vraiment complet et il y a un désir, je pense, de Proust de creuser une direction qu'il n'a jamais creusée dans aucun autre de ses personnages, c'est-à-dire cet énorme point d'interrogation qui continue de peser jusqu'à la fin sur le destin d'Albertine.
Mathilde Brézé, que vous a appris le personnage d'Albertine ?
Eh bien, je crois que Albertine a revivifié pour moi justement ce poncif de la critique qui consiste à dire qu'une création littéraire est éminemment ouverte. Mais en fait, le personnage d'Albertine, quand on regarde et son début, je vous disais qu'elle n'était pas prévue, et sa fin, ses réponses qu'on n'aura jamais à la réalité de son destin, de ses goûts, nous font comprendre que la création littéraire est comme un appel d'air ou une bourrasque qui peuvent déséquilibrer celui qui est en équilibre sur le fil de l'écriture.
C'était Personnage en personne, le 174e. Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Jordan Fuentes.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.